Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Aligre. Vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitania. Lusitania est une émission consacrée à la culture lusophone que vous pouvez trouver tous les samedis de 18h à 19h. Aujourd'hui au micro Marlène Alves, à la technique René Clancy. Lusitania reçoit aujourd'hui en première partie Bruno Beltoise pour la sortie de l'album d'Armand de Polignac et en deuxième partie Clara Chotilde pour la sortie de sa BD Tequa. Alors, Bruno Beltoise est déjà venu plusieurs fois ici à la radio. Il a reçu plusieurs prix. Il est soliste et membre fondateur du trio Pangea. Il est régulièrement invité à participer à des festivals en France et à l'étranger. Et son répertoire s'étend de Bach à des compositeurs contemporains. Il est découvreur des partitions. Il fait connaître la musique des compositeurs portugais jusqu'alors oubliés comme Fernando Lopes Graça, Armando José Fernandes, Luís Costa ou Francisco Lacerda, etc. Il les a enregistrés comme peu d'autres l'ont fait. Il a répandu partout cet héritage musical, aussi bien à travers des conférences dans les universités, dans des conservatoires, comme avec des enregistrements de CD et des éditions de partitions. Parce qu'il est découvreur des partitions et aime mettre en valeur les compositeurs, les compositrices aussi oubliées. Donc on a aujourd'hui avec nous Bruno Beltoise qui va nous parler d'Armand de Polignac. Donc on fête le 150e anniversaire de sa naissance. Armand de Polignac, qui était une compositrice, pianiste, chef d'orchestre et critique musicale française, connue pour être l'une des premières femmes à diriger des orchestres. Elle a été formée par Gabriel Faure et Vincent Digne. Ses œuvres pour piano ont été rééditées en 2026 sous les titres Piano World et les éditions qui les publient et les labels Piano Grand Piano. Bruno Beltoise, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Bruno, vous avez déjà été sur Lusitania, comme je l'ai dit, avec des œuvres des auteurs portugais, mais aujourd'hui, vous venez nous parler d'Armand de Polignac. Qui c'était Armand de Polignac?
Alors, c'est une des compositrices qui est une des rares femmes qui a beaucoup composé dans sa vie à cette époque-là. Elle était d'une famille très, très penchée sur les arts, puisque son oncle était le prince Edmond de Polignac et sa tante était une grande mécène. Vinaretta Singer était une grande mécène des musiciens contemporains du début du XXe siècle, comme Maurice Ravel, Francis Poulenc, Claude Debussy. Et dans cette atmosphère, elle a commencé à apprendre la musique avec son oncle, Edmond Polignac. Et puis très vite, c'est devenu une passion évidente pour elle. Elle était très douée, elle a travaillé le violon, le piano, et puis l'écriture, comme vous l'avez cité un peu plus tard, avec Gabriel Fauré, la direction d'orchestre à la Scola Cantorum avec Vincent Dindy. Et puis cette évolution lui a donné, je dirais, tout le savoir pour être à la fois une femme compositrice, pianiste et chef d'orchestre. Et sa musique, pour laquelle elle a consacré énormément de temps dans sa vie, car bien qu'elle était d'une famille extrêmement riche et bien placée dans les milieux artistiques de son époque, elle a néanmoins plutôt favorisé son travail que les mondanités, et c'est la raison pour laquelle elle a beaucoup consacré de temps à sa composition. Donc c'est une femme qui est déjà, on peut dire, connue, mais à peine connue dans les milieux musicaux d'aujourd'hui, mais qui commence à être rejouée depuis le pianiste Laurent Martin, qui est un de mes amis contemporains, qui a commencé à rejouer certaines œuvres d'Armand de Polignac, qui les a enregistrées, enfin pas toutes, quelques-unes, au fil de deux albums discographiques consacrés à des femmes compositrices. Et puis il m'a demandé si je pouvais m'intéresser à cette personnalité, car il savait que j'avais énormément d'attrait pour les compositeurs plutôt oublié. Et en fait, j'ai été fasciné par cette personnalité parce qu'elle a beaucoup de finesse. Elle a également une grande force de caractère. Et donc, j'ai réuni, grâce à la musicologue Florence Launay, j'ai réuni tout un ensemble de pièces pour piano afin d'essayer de faire des choix dans ce que j'avais envie de jouer. Donc c'est une femme qui a développé la musique orchestrale parce qu'elle a composé ballet, opéra, qu'elle a elle-même dirigé à l'Opéra de Paris, au Théâtre du Châtelet, à l'Opéra de Nice. Et donc c'est tout cet aspect très diversifié de sa personnalité qui m'a intéressé et je suis très très content d'avoir réussi à offrir au public eh bien, cette première monographie entièrement dédiée à sa musique.
Donc, comment on pourrait dire, quelles sont les œuvres, quel est le style dans ces œuvres d'Armand de Polignac? Pourquoi elle est reconnue en plus de tout ce que vous venez de dire?
Oui, alors en fait, elle a un style d'écriture qui est encore autour de 1900, un style très inspiré par la musique romantique française, celle qui vient de Gounod, de Saint-Saëns et de Gabriel Fauré, de César Franck aussi. Et ses premières séries de préludes pour piano, qui sont datées de 1900, sont très originaux, mais très imprégnés d'une écriture, je dirais, post-romantique. Et en fait, très vite, à partir de 1904-5, elle commence à composer des œuvres qui sont bien plus ancrées dans la modernité, dans la musique contemporaine de Claude Debussy, par exemple. Et elle devient vraiment, pour moi, une sorte de maillon très, très remarquable en tant que compositrice entre, justement, le passage du romantisme à la musique impressionniste. Et en cela, on peut dire qu'elle a un parcours qui ressemble un peu au parcours d'une autre de ses collègues, qui était la compositrice Mel Bonis, un peu plus âgée qu'Armand de Polignac, puisque Armand de Polignac est né en 1876. Et en fait, ce sont deux femmes très importantes, je trouve, aujourd'hui. Alors, Mel Bonis est plus connue parce qu'elle est soutenue déjà au niveau de sa diffusion depuis de nombreuses années, mais Armand de Polignac, elle a encore énormément de chemin à parcourir pour être connue du public en tant que compositrice importante de la musique française.
Et Bruno Beltoise, dans cet album, vous êtes accompagné par qui ?
En fait, dans cet album, il y a, c'est un album de 70 minutes de musique, donc le maximum possible, en fait, de ce qui est possible d'enregistrer sur un disque. Et en fait, j'ai voulu consacrer 40 minutes à des œuvres pour piano seul. Donc, il y a les cycles des échappées, berceuses, des pièces comme les préludes ou des pièces avec des titres plus indépendants comme berceuses. Et aussi 30 minutes de piano à quatre mains que je partage avec mon partenaire João Costa Freire, qui est donc un pianiste portugais qui vit à Paris, et qui est mon partenaire à quatre mains déjà depuis beaucoup d'années. Et je lui ai proposé d'interpréter avec moi les Mille et une nuits, qui est un ballet, un très beau ballet en trois mouvements, pour piano à quatre mains, qui a été ensuite orchestré et monté sur scène. Et nous avons voulu vraiment donner une image très, je dirais, très contrastée à sa musique dans ce disque, de manière à avoir des pièces très calmes, des pièces très rythmées, des pièces qui manifestent cette influence de la musique orientale dans cette période de l'histoire française. Et je suis ravi d'avoir pu le faire. Et il y a aussi une petite surprise, j'aimerais aussi vous en parler.
Je voulais vous
dire qu'il n'y a pas seulement...
Attendez un petit peu. On va vous parler de la surprise juste après. Je voulais juste dire que João Costa Ferreira, il est aujourd'hui directeur de la Maison du Portugal, André Gouveia, à la Cité universitaire, grand pianiste aussi, comme oui. Vous avez dit, votre collègue depuis longtemps, et spécialiste dans la musique du 19e et 20e siècle. Donc, on va écouter...
Fait.
Voilà, on va écouter des préludes et après on parle de cette découverte que vous avez faite. D'accord ? Merci.
Tout à fait d'accord.
On écoute. Thank you. Donc, on vient d'écouter Prélude d'Armand de Polignac et on est avec Bruno Beltoise. Et bien sûr, vous êtes sur Radio Aligre et sur l'émission Lusitania. Alors, Bruno, on continue à parler un petit peu. Et tu m'as dit que dans cette CD, qui est publiée par le label Grand Piano, il y a une surprise.
Oui, alors c'est assez drôle parce que lorsque je préparais l'enregistrement avec les pièces solo, un de mes amis musicologues, collectionneur de partitions à Lisbonne, João Pedro Mendes dos Santos, qui est mon partenaire aussi pour les éditions Ava, et en fait a découvert un manuscrit d'Armand de Polignac à Lisbonne, dans une collection privée, et il m'en a fait une photocopie, et il se trouve que ce manuscrit est pour piano à quatre mains, et c'est la seule chose qu'on connaisse d'Armand de Polignac pour piano à quatre mains en dehors des Mille et une Nuits. Il s'agit de deux cloches qui ont été certainement composées à Lisbonne. Elle avait un lien, en fait. L'une de ses cousines avait épousé un homme de la famille Baruch de Assis. Et donc, cette pièce a dû rester à Lisbonne pendant pas mal de temps. Et puis, il a suffi que dans les archives d'une musicienne portugaise, on retrouve les traces de la présence d'Armand de Polignac à Lisbonne. Donc, c'était évidemment pour moi qui suis extrêmement proche de la musique et de la culture portugaise, ça m'a évidemment sonné un peu comme une sorte de symbole assez fort. Et on a enregistré ces deux cloches dans le disque dont vous parlez.
Donc on va écouter juste après les morceaux cloches. Mais avant, je voulais rappeler que vous avez un concert dans le cadre de Musicorama les 16 mars à 19h à l'ambassade du Portugal, 3 rue Noisel, dans le 16e. Un concert intitulé « Compositrice inspirée » avec Violane Dufès au bois, Yves Charpentier à la flûte, Léon Beltoise au violon et vous-même, Bruno Beltoise, au piano.
Oui, il y aura plusieurs compositrices, surtout des compositrices françaises, mais il y aura aussi la création d'une pièce que nous avons commandée à Inés Padalo, qui est une compositrice luso-espagnole, et qui nous a composé une sorte de quatuor pour piano, flûte, violon et hautbois. Et donc, voilà, c'est dans la série Musicorama. On peut accéder, bien sûr, à ce concert qui aura lieu à 19h lundi 16. Mais pour cela, il faut s'inscrire. Il faut juste confirmer sa présence auprès de l'ambassade.
Voilà.
Donner son nom. Voilà.
Merci, Bruno. Et j'espère qu'on se retrouvera une autre fois pour d'autres concerts. Et on va partir
avec
Cloche, donc d'Armand de Polignac, cette petite perle que vous avez trouvée à Lisbonne, au Portugal. Merci, Bruno.
Merci.
On vient d'écouter donc un extrait de cette compositrice de Armande de Polignac et de la découverte de ces fameux manuscrits de la compositrice qui s'appelle Cloche. Un grand merci à Bruno Beltoise d'avoir été avec nous. Et on passe à la deuxième partie de l'émission, donc avec Clara Chetil. Bonsoir Clara.
Bonsoir.
Alors, Clara Chetil, elle est plasticienne, chercheuse et autrice de bande dessinée. Elle s'est formée à la bande dessinée à l'École européenne supérieure de l'image à Angoulême. Elle est aussi architecte de formation. Clara Chetil est franco-brésilienne. Était quoi ? Cet album duquel on va parler tout au long de l'émission a été publié le 11 mars chez Actes Sud. C'est son troisième BD après Opera Negra, publié aussi chez Actes Sud, et Les Blancs du Drapeau, publié chez Albin Michel avec Julie Schleibling. J'espère que je le prononce.
Schleibling
au scénario. Donc, bonsoir Clara. T'es quoi est une fiction retraçant l'histoire de Dourados, qui est une région de l'état de Mato Grosso do Sul. Ce sont des histoires que vous avez recueillies sur place et aussi beaucoup de recherches et de la documentation que vous avez fait, des photos. Pourquoi avoir choisi cette région du Brésil?
Cette région du Brésil, c'est une région avec laquelle j'ai des liens de par ma famille maternelle. Donc, c'est une bande dessinée qui, moi, me permet de me questionner un peu sur l'histoire du Brésil et sur mon lien avec le Brésil. Et il se trouve que mon lien avec le Brésil, quand je commence à creuser, je me rends compte qu'il est... Il a à voir avec cette région, le Mato Grosso do Sul, qui est la région où ma mère est née. Et j'ai toujours entendu parler de cette région comme de la région d'enfance de ma mère, avec des images assez, assez lumineuses, etc. Et en y revenant un peu plus récemment, je me suis un peu posé des questions sur quelle était cette région et quelle était vraiment son histoire. Et c'est ce qui va être la genèse de ce livre.
Donc l'origine de ces livres, les débuts de ces projets, vous l'avez réalisé dans combien de temps? Parce que ce n'est pas évident, je suppose, avec toutes les recherches que vous avez faites, toutes les rencontres qu'il a fallu trier, les photos aussi. Combien de temps ça vous a pris, un projet comme celui-là?
C'est un projet qui s'est un peu étalé dans le temps. J'écrivais aussi deux bandes dessinées en même temps à ce moment-là. Je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire et la publication, il a dû dérouler au moins 3 ans. C'est pas un temps si long pour une bande dessinée. Après, c'est aussi un peu l'idée pour moi. Enfin, c'est la chance qu'on a quand on fait de la bande dessinée, c'est d'avoir un temps long pour mûrir une réflexion. Et je voulais vraiment prendre le temps de comprendre un peu ce que je voulais dire. Et c'était vraiment un cadeau, quoi, de pouvoir faire ces différents voyages au Brésil, de pouvoir faire les rencontres qui vont permettre de recueillir la matière pour le livre, et puis aussi de renouer un petit peu avec à la fois de la famille sur place et aussi des histoires familiales
personnelles que vous avez rencontrées là-bas.
Que j'ai rencontré là-bas, donc c'est à la fois des histoires familiales que je connais via mes grands-parents, via ma mère, via les oncles et les tantes, et puis la famille éloignée qui est toujours au Mato Grosso do Sul. Et aussi, je vais mêler cette histoire-là à d'autres histoires, puisque c'est une histoire qui en fait est polyphonique, qui a plusieurs voix. Et donc, il y a une voix qui est celle de ma famille et l'autre voix qui est celle des populations autochtones, donc les Kaiowa Guarani, les Guarani, aussi les Terena, les personnes qui étaient sur place avant l'arrivée des colons, puisque je raconte finalement une histoire de colonisation.
Qui est peu connue.
C'est une histoire qui est peu connue. Ouais, c'est une histoire qui est peu connue. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu m'intéresser à cette histoire. Donc moi, je suis franco-brésilienne, mais j'ai grandi en France. Et j'y avais un peu un décalage entre l'imaginaire du Brésil qu'on a en France et puis cette réalité-là qui déjà était singulière. Donc ma mère, elle vient d'une famille de nordestins qui ont fait la migration au moment des grandes migrations où il y avait beaucoup de populations qui allaient plutôt vers les villes. Eux, ils venaient du Ceará. Et à ce moment-là, ils ne sont pas allés dans les villes comme c'était plutôt la grande partie de la population, que ce soit Rio, São Paulo, cette phase d'urbanisation, mais ils sont allés à l'intérieur des terres parce que c'était aussi le moment de la grande marche vers l'ouest, une des phases de colonisation du Brésil. Et ils sont allés dans la Conde, donc c'est la colonie agricole nationale de Dourados. L'État, à ce moment-là, offrait des lots aux familles
aux familles blanches, enfin aux Européens qui étaient là.
Alors donc eux étaient nordestins, hein, c'était aux familles qui étaient effectivement des familles considérées comme occidentales, voilà.
Et ils leur offraient des terres qui étaient occupées par les peuples autochtones.
Toutes les terres au Brésil. Oui. Toutes les terres au Brésil ont toujours été occupées par les peuples autochtones. Il n'y a jamais eu de terre de... Ça n'existe pas, hein, que ce soit le Brésil, d'ailleurs, toutes les Amériques. Quand on vient occuper des terres, en fait, on vient...
D'ailleurs.
Soit on vient d'ailleurs, mais on vient sur des terres qui sont déjà habitées, que ce soit par des animaux, mais aussi vraiment par des populations humaines. Et donc, c'était le cas à cet endroit-là aussi.
À Dourados.
À Dourados, exactement.
Et c'est là qu'ont débarqué vos grands-parents.
Tout à fait.
Parce que le gouvernement leur avait donné des terres.
C'est ça. Donc, on a un moment d'exode économique. Hein, beaucoup depuis le nord, le nord-est, c'est des territoires assez pauvres. Et aussi, on avait à ce moment-là beaucoup de sécheresse. Donc, il y a un grand mouvement de migration, donc à la fois vers les villes, comme je disais. Et l'État, à ce moment-là, met en place deux colonies. Il y en aura d'autres, mais c'est un peu des prototypes... Il y en a une dans l'état de Goiás et il va y avoir la Conde, donc dans l'état du Mato Grosso, qui ensuite deviendra le Mato Grosso do Sul. Et c'est à la fois l'idée d'occuper ces territoires pour en avoir des ressources agricoles. Et puis aussi, il y a aussi cette situation particulière qui est qu'on est quelques décennies après la guerre du Paraguay. Donc c'était des territoires aussi qui étaient... anciennement paraguayen, et donc il y a cette volonté de marquer la présence brésilienne.
De délimiter la frontière entre le Paraguay et le Brésil.
Mmh.
Et que c'était une guerre assez importante qui a duré quelques années quand même.
Ouais, qui a duré 4 ou 5 ans, si je veux. Et qui a été assez terrible et qui a fait que les territoires, pas l'ensemble de la colonie, mais une partie de la colonie, effectivement, était autrefois un territoire qui était un territoire paraguayen. Et c'est pour ça, et notamment donc les populations donc qui sont majoritairement Guarani-Kaiowa, c'est aussi des populations qui se retrouvent de l'autre côté de la frontière,
voilà,
évidemment.
Cette population, elle est là au Brésil comme elle est au Paraguay.
Au Paraguay, oui. Donc, et aussi dans d'autres états frontaliers.
C'est que les Occidentaux qui ont marqué une frontière, parce qu'eux, ils n'ont pas de frontière.
C'est ça. Alors après, il y a quand même une zone d'habitation étendue qui correspondait vraiment... Donc la zone d'habitation des Kaiowa, qui justement est désignée comme le Tekoa, qui correspondait plus ou moins à cet espace qu'occupe la colonie, les espaces qui sont vraiment dédiés à l'habitation, c'est-à-dire là où on va avoir des maisons, des campements, etc. Ça, c'était effectivement c'était un peu mouvant, mais c'était une mouvance qui était quand même délimitée à une certaine région qui était bien connue, cette région étendue, région de chasse, de pêche, etc., de cultivation, qui se superpose quasiment parfaitement à la colonie Conde.
Aujourd'hui. Dites-moi, vous avez eu plusieurs histoires. Comment on sélectionne ces histoires? Parce que vous nous avez parlé de tous ces mouvements d'occidentaux qui sont venus, les autochtones qui étaient là et qui se sont un peu retrouvés, refloués. Et cette guerre aussi qui a eu lieu, et tous ces mouvements, toutes ces histoires que vous avez recueillies, non seulement des peuples autochtones, mais aussi des Occidentaux qui sont migrés vers donc Mato Grosso do Sul. Comment on sélectionne? Pourquoi je prends celle-là et pas une autre?
Ouais, bien sûr.
Ça doit être difficile.
Bah, c'est difficile de savoir où commencer, mais finalement, donc l'histoire, elle est menée par deux personnages qui sont des personnages contemporains, mais effectivement, on va avoir plusieurs retours dans le passé qui vont raconter des moments un peu importants ou en tout cas qui auront des conséquences pour la suite et qui vont expliquer un peu la transformation de ce paysage. Et la première remontée en arrière, donc j'ai décidé de commencer par le moment de la délimitation de la zone. Donc c'est vrai que c'est pas la première rencontre entre populations colonisatrices et les populations guarani, puisque on a vu qu'il y a eu la guerre avant. Il y a aussi eu des routes qui avaient quand même été tracées, et puis il y avait l'entreprise de la Match Laranjera, qui était une entreprise qui occupait, mais de manière beaucoup moins dense, ce territoire-là. Et moi, j'ai décidé que j'allais me concentrer sur la colonie, qui est vraiment le moment qui marque une rupture, parce qu'on va avoir une arrivée massive de population qui va déclencher vraiment une transformation du territoire. Et j'ai décidé de commencer à cet endroit-là, parce que moi, ce que je trouvais assez marquant dans cette histoire, c'est que c'est une histoire... En tout cas, l'histoire de la colonie, c'est une histoire qu'on peut raconter en trois générations, ce qui est quand même une temporalité extrêmement courte. Si on considère la rapidité de la transformation de ces lieux,
de ces territoires,
de ces territoires, donc c'est finalement on arrive à un territoire qui est assez peu détruit, oui,
un peu quelque part,
dans les années 40. À un territoire qui aujourd'hui est complètement... c'est vraiment un paysage de l'agroalimentaire brésilien.
On va écouter une musique que vous avez choisie de Amaranda, qui est une rappeuse indigène Guarani Kaiowa, qui met en avant la résistance féminine à la préservation de l'environnement. Donc on écoute, j'espère que je vais bien les prononcer. Le morceau s'appelle Che Machu Mandu Akwemi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Acredite em mim que eu conto a sua história. Através da rima, a aldeia resiste. Somos a voz dessa terra. Somos protetores da natureza. Sou a minha irmã, a voz das mulheres. Sou o futuro das minhas sobrinhas indígenas. E sou presente da minha avó. Assim eu vou rimando sobre minha cultura. Nós indígenas, sempre sofrendo muito, mas nunca paramos de lutar. Somos atacados por racismo e preconceito. Temos a esperança de que a igualdade vai chegar. MC Anarandá na voz, na voz, na voz.
Shehae, unyangwe o mumbe u, ko angandai kwai, ba empo jehu, kivaha suru mau e ko nyondi ve, ko angwe ko vai, guiracha o bebe, moan vai te, kare kweron botisha, amaru peo suru, mi pirape o juka, te ko hajere, kagu o kanyimbado, de recha veio mi kai, opa mumba. Ava no marica vegui, ipu a si chupé, ivu o de carro, soropai tengo perrape. Nyembo e po jerure, cago de vuhanga, carai nyarando peu rapu pau minhana. Azinho com boebe, o rapu pango te corra. O pepe aba imba, se manto topa. O pepe aba imba, se manto topa. Ei, 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 ei. De cunha carai. Ne mando apa, retão e vaque, vua rajero que o siripotim, coco é porão. O siripotim, coco é porão.
Deixe abrir a mim, ne mando apa, cagu porão. Deixa abrir a mim.
bonitinha e os animais.
On vient d'écouter donc Anna Randa, qui est une rappeuse indigène Guarani Kaiowa, et elle chante en portugais et aussi, je suppose, en Guarani Kaiowa, parce que là, il y a des morceaux que je n'ai pas compris.
Oui, c'est ça. Après, on peut avoir, ils ont fait un travail, donc on peut avoir la traduction en portugais, mais en tout cas, quand on entend ce qu'elle dit en portugais, c'est grand-mère, est-ce que tu te rappelles de la forêt qu'il y avait à cet endroit-là?
Avant.
Ouais, avant.
Et c'est pour ça qu'elle lutte pour cette préservation de cet environnement qui a complètement disparu, puisque avec, on va dire, les différentes colonisations des différents gouvernements, parce que ce n'est pas seulement un. Donc, Dourado, c'est la région de Mato Grosso do Sul, a été transformée. Et est-ce qu'aujourd'hui, il continue à avoir cette migration économique des gens qui sont peut-être un peu plus pauvres vers cette Mato Grosso do Sul, ou c'est plutôt les grandes industriels, la grande agronomie qui migre, on va dire, entre guillemets, vers cette région?
Oui, donc je raconte plusieurs phases un peu d'arrivée de personnes dans cette région. Donc les premiers, ça va être effectivement les petits exploitants qui vont faire, donc c'est le cas de mes grands-parents, qui font plutôt une agriculture familiale avec des produits vraiment d'alimentation. Et puis dans les années 70-80, on va voir petit à petit des plus grands propriétaires qui rachètent tous ces terrains, qui vont à partir de ces lots relativement petits faire des grands lots qui, aujourd'hui, on a quasiment que des très grands propriétaires. Et la très grande majorité de ces produits sont destinés à l'exportation. Et par contre, on a de nouveaux fronts de colonisation qui sont plus au nord, qui sont plus à l'intérieur des terres, beaucoup dans le Cerrado, mais aussi au niveau de la forêt amazonienne en remontant. Donc, c'est ce processus-là où on a quand même souvent au départ des petites exploitations. Puis il y a quand même toujours cette logique-là, puisque finalement... les personnes qui...
Les petites exploitations donnent les jalons pour que les grands arrivent par la suite.
C'est ça. On a ensuite des villes qui se créent. Donc, les personnes qui, au départ, étaient...
Des routes
dans cette,
qui s'ouvrent.
Voilà. Les personnes vont aller plutôt travailler en ville ensuite, dans les emplois du tertiaire, etc. Donc, c'est ce mouvement. Ouais.
Et la déforestation qui continue.
Tout à fait.
Alors, dans votre livre... il y a en effet deux histoires en une, si je l'ai bien lues. Donc, deux façons de traiter graphiquement aussi les histoires. Vous avez des morceaux très colorés, très tropicales, et des endroits où c'est juste le blanc qui prime. Quelle est la signification de cette différenciation? Passé, présent?
C'est une bande dessinée que j'ai fait entièrement à l'acrylique en grand format. Donc il y a les moments du présent qui sont traités, mais relativement avec un traitement qui est quand même assez proche des moments du passé. Mais en tout cas, j'ai voulu concentrer mon énergie pour ces chapitres qui sont ces retours vers le passé à vraiment... à ce que le lecteur puisse être vraiment en immersion dans un paysage qui est extrêmement beau. Parce que moi, c'est vrai que que ce soit les photographies, les archives que j'ai pu consulter, et même certains endroits où j'ai pu aller, c'est vraiment des très beaux paysages. Et aussi, il y avait la question de l'affect autour de cette terre. Toutes les personnes qui m'en parlaient, que ce soit ma famille ou que ce soit justement les Guarani, les Kaiowa que j'ai rencontrés, me parlent de ces territoires avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affect. Et je voulais qu'on puisse aussi tomber amoureux de cet endroit à travers cette immersion graphique dans ces paysages-là.
Alors, c'est assez étonnant de voir une bande dessinée travailler à l'acrylique. quelles difficultés particulières vous avez trouvées à travailler ces matériels? Parce que vous n'avez pas fait des petites cases. Je suppose que les petites cases sont des grandes feuilles, je ne sais pas quelle taille, mais...
Oui, j'ai travaillé en très grand format. Après, ça, c'est parce que je ne suis pas quelqu'un qui travaille très petit. Mais en plus, l'acrylique a vraiment cette caractéristique de ne pas être... de pas être si maniable que ça. Enfin, c'est une peinture qui peut être assez épaisse, donc qui est plutôt destinée au grand format.
Au grand tableau.
Au tableau, ouais, c'est ça. C'est que au départ, j'ai commencé à peindre sur du grand format et ensuite j'ai fait la bande dessinée. Je voulais faire de la peinture, donc je suis retournée à l'acrylique, mais c'est peut-être pas la peinture la plus adaptée. En tout cas, ça permet de... C'était une peinture que j'avais l'habitude de manier. Donc oui, ça c'est à la fois une contrainte et un avantage de devoir faire des grands formats. Ça permet aussi d'avoir un rapport aussi immersif pendant le moment d'exécution des planches.
Les planches, vous les avez fait ici ou quelques-unes, vous les avez dessinées là-bas directement?
Alors, j'ai beaucoup circulé pour faire...
Avec votre matériel?
Oui, bon, après, c'est du papier un peu quelque... Bah, justement, j'ai fait sur plusieurs papiers différents. Après, moi, mon acrylique, je peins avec seulement les trois couleurs et du blanc. Donc, c'est pas dur à trouver. Et j'ai fait ça en France, dans plusieurs villes de France. J'ai fait ça aussi au Brésil, à São Paulo. Et ça a été un casse-tête pour les maquettistes de faire l'assemblage parce que les couleurs j'avais scanné sur des scanners différents, donc voilà, c'est je m'excuse.
Ça n'a pas été facile pour l'éditeur.
C'est ça, il a fallu ajuster les couleurs, mais ils ont fait un beau travail et on se rend pas compte de la diversité des digitalisations des planches.
Donc l'acrylique est une matière que vous aimez bien, mais dans les anciens BD que vous avez fait, comme Opera Negra ou Le Blanc du Drapeau, c'est pas ces matériels que vous avez utilisés?
Non, pour les deux que vous avez cités là, j'avais fait la couleur digitale. Donc après, je la travaille digitalement d'une manière assez semblable à l'acrylique. C'est aussi des couleurs que je mélange, mais que je fais à l'ordinateur. Moi, j'adore la peinture, donc je voulais vraiment faire cette BD à la peinture. C'est pour ça aussi que c'est un projet long. Je voulais avoir le temps d'être sur de la couleur directe comme ça. Il n'y a pas de trait par-dessus, le trait aussi. Enfin, vraiment, c'est que de la peinture acrylique.
Donc, dans votre BD, il y a deux personnages principaux. C'est Georges et Anna, qui se retrouvent en fac et qui, à un moment donné, se disent, mais l'un dit à l'autre, mais les Guarani, ils doivent s'adapter, à la civilisation.
Donc ça, effectivement, il y a un moment donné où... donc Anna, c'est un personnage qui est donc descendant de colons. Georges, lui, est un Kaiowa Guarani, donc qui est aussi descendant de populations qui, elles, ont été déplacées de force, ou en tout cas qui sont en lutte pour la reconnaissance de leur territoire. Lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi sa manière d'être n'est pas acceptée
ses traditions,
pourquoi
les abandonner.
Ses traditions ne sont ni valorisées, et puis pire que ça, ne sont pour effacées, menacées. Et oui, lui, il donc c'est à partir, donc j'ai écrit ce personnage à partir de plusieurs rencontres, donc c'est un peu un mélange de plusieurs personnes que j'ai rencontrées, mais dont en particulier un étudiant qui lui a fait son mémoire sur l'observation de l'arrivée des colons par sa famille, qui est donc sur un territoire qui était à un endroit de cette colonie. Et donc, lui dit oui, moi, je suis allée dans les universités blanches et dans les écoles, à la fois les écoles indigènes, à la fois les écoles blanches. Et j'ai jamais compris. Enfin, moi, je n'avais pas envie de ressembler à un blanc. Et on nous disait qu'il fallait qu'on soit civilisé.
Pourquoi ?
On n'aspirait pas. Nous, on n'aspire pas à ça.
Pourquoi sa civilisation serait moins civilisatrice que la nôtre, en quelque sorte ?
Oui, bien sûr. Bah, après, c'est, on comprend bien que c'est
la loi du plus fort, en quelque sorte.
Oui, à cet endroit-là, oui, bien sûr, il y a pas de.
Alors, dans votre histoire, il y a ces deux personnages qui sont, pour ainsi dire, des personnages principaux, mais aussi, je trouve que un des personnages est aussi les territoires, cette région, cette forêt, ces plantes, ces animaux.
Oui, c'est le personnage principal hein, qui donne d'ailleurs son titre à la bande dessinée. C'est le personnage principal et c'est son évolution dans le temps. C'est ça qu'on observe et c'est un peu, c'est le lieu vraiment le autour duquel on circule et sur lequel on se questionne.
Et ça veut dire quoi, des quoi ? Parce que ça veut dire territoire, ça veut dire quoi, en effet ?
Donc, Tekoa, c'est le. C'est un terme qui n'a pas de traduction exacte en français ou en portugais, hein, mais souvent on va pouvoir dire la terre sacrée, la terre dans qui fait de nous ce que nous sommes. C'est une conception du territoire, mais dans un sens plus vaste qui inclut le rapport à ce territoire et qui va aussi inclure d'autres dimensionnalités. Finalement, le Tekoa, c'est à la fois le territoire, c'est à la fois nous qui sommes dans ce territoire, c'est à la fois nos ancêtres qui sont dans ce territoire, nos ancêtres spirituels, donc les divinités, etc. C'est tout un écosystème. Et donc, finalement, les Kaiwa Guarani sont indissociables du Tekoa. Ils sont aussi le Tekoa. C'est aussi une manière de désigner le territoire, mais qui ne propose pas un regard comme un territoire, comme un lieu ou comme un bien à exploiter. C'est pour ça que c'est un peu incorrect de le traduire comme les traductions sont toujours un peu.
Ils sont jamais corrects.
Voilà.
Alors dans votre livre, on parle beaucoup de Tumadash. Et de retomades, c'est quoi cela ?
Donc la retomade, effectivement, le livre s'ouvre sur une scène de retomade et on va ensuite dérouler le récit jusqu'à revenir à cette même scène de retomade. La retomade, c'est le...
Parce que ça commence avec ça.
C'est ça.
Les livres.
La retomade, c'est le fait de se rassembler, donc c'est une population donc indigène là en l'occurrence Guarani Kaiowa qui décide de marcher et d'occuper un territoire sur lequel il n'habite plus pour des causes de
parce qu'ils l'ont été expropriés
voilà de colonisation que ce soit des entreprises ou des fazendeiros sont sur place et d'occuper physiquement ce territoire donc de manière organisée pour pressionner en fait le gouvernement à démarquer ce territoire dans un contexte où on est presque au point mort sur les démarcations. Il y a très très peu de c'est très compliqué de revendiquer une terre pour qu'elle soit une terre indigène.
Indigène. Et dans ces retomates, il y a aussi beaucoup de conflits, beaucoup de morts, beaucoup de
Oui, évidemment, oui, c'est des actions extrêmement risquées, extrêmement dangereuses et qui sont très, très largement attaquées. Il y a une très grande violence quand même. Le Mato Grosso do Sul, c'est un des États les plus violents envers les populations indigènes au Brésil. Donc faire une retomada, c'est vraiment se mettre et mettre son corps en péril pour. Mais c'est dans l'idée que. Le territoire, c'est aussi nous. Donc finalement, on est déjà violenté, on est déjà en danger. Donc on va se mettre physiquement dans cet espace qui est l'espace dont on a besoin pour maintenir notre mode de vie.
On va écouter encore une musique. On va faire une petite pause musicale avec Sonhos guarani de Alter Sater, la chanson parle des rêves guarani et de leur histoire à travers les champs et les montagnes. On écoute Sueños Guarani.
Mato Grosso encerra em sua própria terra sonhos guaranis. Por campos e serras a história enterra uma só raiz que aflora nas emoções e o tempo faz cicatriz em mil canções, lembrando que não se diz. Mato Grosso espera esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz em mil paixões, sabendo morrer feliz. E cego é o coração que traz aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Mato Grosso espera esquecer quisera o som dos fuzis. Se não fosse a guerra, quem sabe hoje era um outro país. Amante das tradições de que me fiz aprendiz em mil paixões, sabendo morrer feliz. E cego é o coração que traz aquela voz primeira que de dentro sai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. E às vezes me deixa assim ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai.
On vient d'écouter Sueños Guarani de Almer Sater. Donc cette chanson qui parle du rêve des Guarani et qui parle aussi de cette guerre qu'il y a eu avec les Paraguay et du fait qu'aujourd'hui cette région est brésilienne.
C'est ça, oui. J'évoque rapidement cette chanson dans la bande dessinée. C'est un peu le seul moment où je parle de cette guerre, mais c'est pas non plus le sujet. Mais c'est vrai que je voulais aussi raconter évoquer ce passé. Et oui, bah, c'est lui, c'est aussi une personne qui parle de son amour pour cette région, le Mato Grosso do Sul.
Alors, bon, il parle du conflit, bien sûr, avec le Paraguay, mais dans votre livre, on parle surtout du conflit entre les peuples Guarani et cette arrivée des industriels agroalimentaires qui leur prennent leur territoire. C'est quoi cette fameuse septième ligne de démarcation ?
Donc il y a un chapitre qui s'appelle la septième ligne. Bah, la septième ligne, c'était l'endroit où habitait l'endroit où est née ma mère et donc où habitait la famille. Donc quand ils ont commencé à délimiter la colonie, ils traçaient donc il y a le marcouzel ou le point zéro à partir duquel on tous les je sais pas combien de kilomètres ils plaçaient des marqueurs et c'était les lignes qui étaient les premiers tracés. C'est des territoires qui sont vraiment quadrillés. Et donc, la septième ligne, c'était la septième ligne où il y avait la famille de mes parents, quelques cousins du Nord-Est. Je crois qu'il y avait des familles de Japonais aussi sur la septième ligne. C'était le quartier, finalement, le quartier rural où commence cette histoire pour la famille de ma mère.
Mais c'est vrai que ce territoire n'est pas encore délimité, ni pour les uns ni pour les autres. C'est un peu la pagaille.
Quand ils arrivent...
Les Guarani n'ont pas de délimitation. Les Blancs disent on nous a vendu un territoire, donc on le prend. Comment ça se... C'est conflictuel quand même.
Oui, c'est très conflictuel. Donc au moment de l'arrivée, en même temps, un peu même avant la création de la colonie, l'État crée la réserve de Dourados. Donc on va délimiter un territoire absurdement petit, hein, pour parquer vraiment les populations autochtones à l'intérieur. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir des conflits, donc des personnes qui viennent sur des terrains qui sont vraiment, ou qui comportent des habitations
qui ont été délimitées pour les Guarani.
Ou qui, juste, oui, qui ne sont pas délimitées, qui sont délimitées pour la colonie, qui sont destinées à des colons, on va déporter ces populations vers la réserve qui existe aujourd'hui, hein, je crois que c'est la réserve la plus densément peuplée du Brésil. Ouais. Du fait qu'on a regroupé là des habitants, des personnes de plusieurs ethnies différentes qui étaient sur un territoire très très grand et qui se retrouvent dans des territoires petits. Et donc il y a eu des confrontations plus ou moins violentes. Moi, finalement, la famille de ma mère n'avait pas de contact vraiment, n'a pas vécu ces confrontations de manière directe, du fait que le territoire où eux se trouvaient, c'était plutôt le territoire étendu de chasse, de pêche, etc. Mais ce n'était pas des endroits qui étaient vraiment dédiés à l'habitation. Donc, je pense que ma mère n'était même pas au courant qu'il y avait des populations qui circulaient ou qui habitaient ou qui réclamaient ces territoires.
Ces territoires. Alors, l'émission touche presque à sa fin. Pour nos auditeurs, vous êtes bien sûr sur Radio Aligre et vous écoutez l'émission Lusitania. Et on a avec nous Clara Chotilde qui nous a présenté tout au long de l'émission son livre, sa bande dessinée, T'es quoi ? Qui est paru le 11 mars chez Actes Sud et que je vous recommande de lire pour avoir un aperçu d'une partie petite de l'histoire du Brésil, mais très importante. Donc, allez-y, cherchez tes quoi. C'est très joli, c'est bien fait, et puis ça décrit bien une situation qui est très importante pour le Brésil et pour les Guarani, mais qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, malheureusement. Donc, un grand merci, Clara.
Merci.
Pour nous avoir parlé de ces peuples autochtones, de ces territoires qui ont été vendus, expropriés, pris, je ne sais pas comment les appeler, des perspectives qui sont un peu noires encore aujourd'hui. Donc on va se quitter et j'ai dit un grand merci à René Clancy qui est à la technique et on se quitte avec un morceau de Armand de Polignac. Je rappelle encore que le 16 mars à 19h à l'ambassade du Portugal, il y a les concerts intitulés Compositrice inspirée. avec Bruno Beltoise qui a été en première partie de l'émission. Merci donc encore une fois à René Clancy pour cette technique superbe et tous les petits problèmes que je lui ai créés. Suis version originale avec Patrick Léon-Émile. Restez à l'écoute des émissions d'Aligre et on part avec Armand de Polignac, Mille et une nuits, orgie et danse.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.